ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Vous écoutez Radio Pleine Lune, radio de femmes sur Radio Zone 101.4 MHz. Radio Pleine Lune émet tous les mercredis soirs dès 19h en direct. L'émission que vous allez entendre est une retransmission partielle du programme du mercredi 1er février. Cette émission est retransmise en différé et en continu jusqu'à jeudi soir à 19h, heure à laquelle reprennent les programmes en direct de Radio Zone. Pendant les émissions en direct, tous les soirs dès 19h, vous pouvez téléphoner 20 01 93 023 depuis la Suisse.
Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait
quelques rendez-vous de femmes pour la semaine. Demain, jeudi 2 février, on aura le résultat du procès en appel de la bande des pharaons violeurs. Vous vous souvenez, cette bande qui avait commis plusieurs viols contre deux femmes squatters et qui avait été jugée assez sévèrement et condamnée assez sévèrement en février 83, avait fait appel contre le jugement. Donc la plupart ne se trouvent toujours pas en prison, puisqu'ils attendent le résultat du jugement en appel. Eh bien, ce jugement sera rendu demain. Demain, donc, on saura si les pharaons violeurs vont purger leur peine en prison, aussi, ou alors si le jugement devra être re-rendu, c'est-à-dire si l'affaire repassera en assise. Donc, un rendez-vous important, c'est demain matin à 9h au Palais de justice de Genève. Nous vous convions à y aller très nombreuses. Toujours demain, 2 février, au Centre Femmes, c'est Aspasie, l'association des femmes prostituées, qui va se présenter. Cette présentation sera suivie d'une discussion. Ça se passe donc au Centre Femmes, 5 boulevard Saint-Georges à Genève, à 20h30. Mais vous pouvez aller manger au Centre Femmes dès 19h30. Vendredi à 20h, les femmes du camp pour la paix invitent toutes les femmes à venir discuter avec elles. C'est donc une réunion des femmes appelée par les femmes pour la paix. Ça se tiendra à l'Uni 2, puisque depuis 2-3 semaines, les campeurs pour la paix logent dans le hall de l'Uni 2. C'est vendredi 3 février à 20h. Et pour toutes celles qui ne savent pas quoi faire samedi soir, eh bien, ce samedi, c'est le bal des chattes sauvages, 4 février, donc le bal pour lesbiennes et autres femmes. Ça se tient, comme toujours, au Centre Femmes, 5 boulevard Saint-Georges, à Genève, dès 21h. Alors faites-vous belles, aiguisez vos griffes de chatte et allez danser au bal des chattes sauvages. Bonsoir.
Il fait froid, ça commence à se savoir. Ça commence à se savoir. Et il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez.
Aujourd'hui, nous allons écouter une conversation que j'ai eue avec une femme qui fait partie des campeurs pour la paix de Genève. Comme vous le savez sans doute, parce que nous en avons déjà beaucoup parlé sur les ondes de Radio Zone et de Radio Pleine Lune, une marche pour la paix venant de Berlin a eu lieu cet été. C'était une marche organisée par les femmes allemandes. Et ces marcheurs pour la paix, après avoir fait diverses actions, ne sont pas tous repartis chez eux. Un petit groupe d'une dizaine de personnes a décidé de rester à Genève et a installé un campement sur le terrain de la campagne Rigaud, près de l'entrée de l'ONU sur la place des Nations. Et bon, entre Noël et Nouvel An, la police est venue qui les a jetés dehors. Mais après quelques semaines d'hésitation, les campeurs pour la paix, qui n'avaient pas du tout perdu courage, se sont réinstallés cette fois dans le hall de l'UNI 2, où vous pouvez les trouver du reste jour et nuit et aller discuter avec eux. Nous allons donc écouter de larges extraits d'une conversation que j'ai eue avec l'une des femmes du camp pour la paix de Genève. Partie des campeurs pour la paix qui sont venus à Genève avec la marche des femmes de Berlin. Enfin, tu es une campeuse pour la paix, pas un campeur. Et tu fais partie de ce petit groupe de gens qui n'a pas voulu repartir de Genève, qui a décidé de rester malgré le froid et malgré le fait que tout le monde voulait vous chasser. Alors moi, j'aimerais bien savoir en fait pourquoi vous voulez tellement rester à Genève. Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans cette ville que vous ne voulez pas du tout la quitter?
D'abord, il me faut dire que c'est un peu difficile pour moi de parler en français, mais je vais essayer. Alors, oui, je suis une des femmes qui est venue à Genève avec la marche pour la paix. Nous sommes arrivées ici au septembre. Nous avons eu une raison pour aller à Genève, et cette raison, ce sont les négociations entre les puissants des États-Unis et de l'Union soviétique. Et nous croyons que la situation maintenant est très, très dangereuse et peut-être aussi très folle. Je crois les puissants de l'Union soviétique peuvent maintenant tuer chaque personne de nous 20 fois. Et les Américains peuvent nous tuer chaque de nous 30 fois. Alors ensemble, ils nous peuvent tuer 50 fois et nous croyons que c'est assez. Et maintenant, on veut agrandir cette possibilité avec le Pershing, avec le cruise missile, avec le SS-22. Et nous sommes allés à Genève pour être près des négociations. Les négociations de INF et de START sont suspendues, pas terminées, et nous sommes restés ici comme une forme de vigilance. Pour dire ou pour donner un signal de continuer avec ces négociations. Au fin du mois de novembre, on a suspendu les négociations et pour nous, c'était une situation un peu difficile de retourner chez nous ou de rester ici à Genève. Nous avons discuté assez longtemps et nous croyons que nous avons lutté maintenant pour presque 3 ans. Et il y a des millions de gens qui ont lutté. Il y avait des marches pour la paix. Il y avait des jeunes, des gens qui ont fait cette jeûne pour la vie. Il y avait des gens qui ont jeûné presque jusqu'au point de mourir. Et il y avait milliers de gens qui sont allés au prison, des gens très, très normaux et qui ont été pour quelques jours, quelques prisons, qui ont été pour quelques jours ou quelques semaines au prison. Il y a des gens qui ont quitté leur travail pour lutter tous les jours contre ces missiles. Et nous pensons que maintenant, on ne peut pas retourner à la vie normale. Et maintenant, nous avons essayé de dire nous ne voulons pas les cruise missiles, les Pershing, les SS-20. Et les cruise missiles sont arrivés à Greenham Common. Ils sont à Sigonella, en Sicilie, pour aller à Comiso. Ils sont maintenant à Mutlangen, en Allemagne. Et on ne peut pas dire, bien nous avons lutté pour 3 années, nous avons perdu cette lutte, ils ont gagné et on peut continuer la vie ordinaire, parce que la situation n'est plus ordinaire. C'est une situation qui peut, on peut avoir une guerre, et même par accident, très très vite. Alors, il faut penser, il faut réfléchir, il faut faire quelque chose de différent.
Est-ce que tu peux nous parler justement du mode d'action des camps pour la paix? Parce qu'en fait, bon, à Genève, il y a un camp pour la paix qui essaye de s'installer quelque part, mais il y en a eu beaucoup d'autres avant, il y en a des tas d'autres en ce moment dans le monde. Et moi, ça me paraît un mode d'action assez nouveau, assez spécifique, disons, du mouvement pacifiste. Et j'aimerais bien savoir un petit peu, justement, quelle est l'histoire de ces camps pour la paix. Est-ce que vous avez aussi des relations avec les autres camps? Et quelle est la signification, justement, de ce mode d'action qui consiste à s'installer quelque part et puis à plus bouger pour être un espèce de symbole vivant, en fait, d'un refus? Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends, disons, d'abord, comme au premier niveau. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses, toi, du mode d'action?
Oui, pour moi, c'est un peu drôle que je suis maintenant une campeuse pour la paix, comme on dit ici dans les journaux. Il y a une tradition des camps pour la paix, et il y a plusieurs des camps pour la paix dans tout le monde. Il y a le camp pour la paix en Angleterre, à Greenham Common, je crois que c'est le camp le plus fameux. Il y a un camp en Australie, c'est aussi un camp des femmes. Il y a des camps aux États-Unis, à Comiso en Italie, à Mutlang en Allemagne. Je crois que l'origine de ces camps est toujours la même. On va à une place où il y a des décisions politiciennes, où il y a des décisions de politique, mm-hmm. où on veut stationner des missiles et on veut être très à côté de cette place. Alors, on ne peut pas aller dans une maison, mais il faut trouver une autre façon de vivre là. Mais on a aperçu aussi que vivre dans une autre façon est aussi une chose politique, parce que notre vie normale, notre vie ordinaire contribue aussi à cette situation que nous avons maintenant. La vie normale, comme nous vivons ici, surtout les petites familles dans les petits appartements ou les petites maisons, est très, très isolée. Et comme nous avons vécu dans ce camp pour la paix, nous avons vécu dans un groupe ensemble. Et c'était un groupe très, très intéressant parce que nous sommes des pays différents. Nous sommes des 6-7 pays différents. Ça veut dire que nous parlons des langues différentes. Nous avons toujours un problème de communiquer entre nous. Mais ça marche maintenant. Depuis 4 mois, nous vivons comme ça. Nous avons des cultures différentes, des âges différents, des classes sociales différentes. Nous sommes des hommes et des femmes. Et il y a des gens avec du travail et sans travail. Et vivre ensemble dans un groupe comme ça, et vivre très très simple, nous voulons aussi essayer de trouver des formes et de vivre ensemble différentes, avec une différente relation entre des gens et entre des êtres humains et la nature. Il y a trois raisons
pour lesquelles vous êtes restée.
Oui, oui. Ouais. Et le premier est une raison très, très générale. Quand on commence de s'occuper avec les problèmes de menaces nucléaires, il y a un point où on devient très timide, où on a du peur. Et parce que c'est si difficile de penser à cette situation, c'est si difficile de se souvenir d'Hiroshima, de Nagasaki, des guerres, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il passe quand il y a une guerre, ou des situations avec toutes les bombes nucléaires. Et seulement penser de ça est si difficile. Et je crois que beaucoup de gens, et nous aussi, préfèrent de ne penser pas de ça. C'est plus facile de ne penser pas de ça. Alors on s'arrête penser. Et on sent que la vie devient plus et plus... étroite, oui. Et parce qu'il y a trop de choses qui sont trop dangereuses pour y penser. Quand on commence à penser de ça, on essaie de s'arrêter parce que c'est si difficile de penser cela. Mais quand on s'arrête, on sait qu'on s'arrête aussi de voir toutes les choses. Et ces choses sont aussi quelque chose comme la vérité. Et quand on s'arrête de penser de ces choses, on est fait soi-même handicapé. La vie devient plus et plus en droit parce qu'on a peur de penser ça, de penser à une autre chose, de penser. Et cette to lie to yourself.
De mentir à soi-même.
Oui. Je ne veux plus faire cela. Je veux penser et je veux continuer à penser de ces choses et je veux comprendre ces choses. Mais c'est très, très difficile pour l'âme, pour le cœur. C'est très difficile. Alors, on peut continuer à penser quand on n'est pas seul. Quand il y a des autres gens qui pensent aussi de ces choses et on se peut aider. Alors, c'est important de penser de toutes les choses dans un groupe. Mm-hmm. Ensemble, on peut parler de Nagasaki, de Hiroshima et des conséquences de Pershing et de grosses missiles. Et la troisième chose, c'est quand on pense, quand on ose de penser ça, et quand on est dans un groupe, alors on peut penser de ça. On doit aussi avoir le sentiment ou la puissance de faire quelque chose. Et il y a des actions très différentes. On peut aller à Washington, à London, à Bonn. On peut s'adresser aux membres du Parlement dans les pays différents. Mais on peut aussi s'adresser toujours à les gens, à des négociations, de INF et de START. Et nous avons choisi de nous adresser aux gens des négociations, ici à Genève. Et ça veut dire nous essayons de faire quelque chose. Et c'est une combinaison de toutes les trois choses. De penser et parler de ça, de la situation. D'être dans un groupe, ne pas être seul avec tous les pensées terribles et aussi les actions. Et c'est pourquoi cette place où nous avons été était la place pour nous, vivre là en groupe. Et bien sûr, c'était très très dur de vivre là en tente. Mais pour moi, c'était plus facile de vivre là dans une tente que de rester pour moi-même dans une chambre isolée et de m'arrêter de penser d'être seule, isolée, quand je veux penser ou d'être inactive. Et besides this, what's this?
En plus de ça.
En plus de ça, d'être là dans les tentes a attiré beaucoup de monde. Et pour nous, c'était plus d'effet que rester dans un bureau. Ici, il y a tant des offices pour la paix à Genève. Alors, faire un autre office, c'est pas du tout effectif.
Tu viens d'Allemagne et tu as aussi passé pas mal de temps aux États-Unis, donc avant de venir ici à Genève. Et bon, en Allemagne et aux États-Unis, il y a un mouvement de femmes pour la paix qui est assez fort, qui est plus fort, je pense, qu'ici en Suisse. Donc, sans parler peut-être de ce qui se passe à Genève entre les hommes et les femmes à l'intérieur du camp pour la paix ou du mouvement pour la paix ici à Genève, parce que je pense que ce n'est pas très, très significatif. Est-ce que tu peux parler un petit peu en général, justement, des relations entre le mouvement des femmes, le mouvement féministe au sens très, très large du terme, et le mouvement pour la paix? Donc, d'une part, de la place que les femmes prennent dans le mouvement pour la paix, la manière dont elles-mêmes, elles mènent cette lutte-là, et puis de la relation entre le mouvement pour la paix et le mouvement des femmes. En parlant peut-être plus justement de ce que tu as pu voir aux États-Unis et en Allemagne.
Je crois que le mouvement pour la paix aux États-Unis est surtout un mouvement pour la paix. Et le mouvement pour la paix en Allemagne et peut-être en Europe est plus un mouvement contre les missiles, contre les Pershing, les cruise-missiles et les SS-20. Et le mouvement pour la paix en Allemagne ou en Europe, on peut dire, je crois, en général, a commencé avec un mouvement des femmes. C'était surtout la marche pour la paix des femmes de Scandinavie, de Copenhague à Paris, en 1981. Et c'était plus une marche pour la paix, pour changer la vie quotidienne, pour trouver une façon de vivre sans violence. Et depuis ça, il y a un développement dans le mouvement pour la paix pour devenir plus un mouvement contre les missiles. Et en même temps, je crois qu'il y avait plus des hommes qui sont venus dans le mouvement pour la paix, mais qui aussi comment ça dit, they are going to dominate.
Qui vont dominer?
Oui, je crois, c'est un peu comme ça. Parce que maintenant, il y a bien sûr des représentants du mouvement de la paix, mais ils sont surtout des hommes. Et il y a assez de femmes qui pensent maintenant qu'ils ont lutté ensemble avec les hommes. Mais maintenant, il y a des hommes qui contrôlent le mouvement et qui veulent dire ce qu'il faut faire en général. Pour moi, c'est un assez grand problème en général dans le mouvement. Je crois qu'il y a des femmes, peut-être on peut dire nous en général, que nous avons oublié ou... No, I can't say it in French. I think we didn't insist enough on the situation of women. We accepted that we have been dominated by other ideas. We had a lot of different goals. And we all concentrated on fighting against the Pershing and against the cruise missiles and forget to insist always about the women's goals.
Elle vient de dire que donc elle pense que les femmes n'ont pas assez insisté sur leur situation de femme, qu'elles ont mis tout le paquet sur la lutte contre les missiles et les Pershing, et en fait qu'elles ont un peu perdu la lutte en tant que femme. C'est ça, je crois, que tu veux dire.
Oui, oui, oui.
Donc elles se sont un peu perdues dans le mouvement pour la paix des femmes.
Mais c'est aussi assez difficile pour nous parce que. Et quand nous voulons lutter pour la paix, je n'aime pas ce mot, lutter pour la paix, quand nous voulons faire quelque chose pour la paix, il nous faut travailler ensemble avec les hommes, et moi, je le veux faire aussi. Mais il y a toujours cette différence de puissance entre les hommes et les femmes. Les camps pour la paix, il y a tant de camps pour la paix qui sont les camps pour les femmes. Mm-hmm. Alors ce sont les femmes en Angleterre, aux États-Unis, et ici à Genève, c'est hommes et femmes qui habitent avec les tentes en hiver ou dehors quand il fait froid. Mais ils sont les hommes qui font la politique dans les parlements, qui sont dans les universités, qui sont à la police. Il nous faut...
Dis-moi, ça m'a frappé par rapport à Greenham. Donc il y a eu toute la lutte contre l'installation des missiles à Greenham. Et puis la manière dont c'est apparu dans les journaux, en tout cas dans les journaux français, au début on parlait... de la lutte des pacifistes anglais en général. Et puis après, les femmes de Greenham ont pris tellement d'importance, elles ont tellement fait parler d'elles au niveau international, que maintenant, quand il y a une manifestation contre les missiles, on dit les manifestantes, même quand c'est une manifestation mixte. Elles ont vraiment... Elles sont apparues, en tout cas au niveau de la scène de la presse internationale, vraiment comme les chefs de file, comme les leaders du mouvement pacifiste en Angleterre. Mais je crois que ça ne correspond pas tout à fait à la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, d'après ce que j'ai entendu dire, il y a des grands problèmes d'autorité, ou je ne sais pas comment dire, de direction du mouvement pacifiste, entre justement les femmes de Greenham, qui sont extrêmement autonomes, qui veulent faire leur lutte, et puis tout un mouvement pacifiste anglais, qui est, bon, dirigé par les hommes, comme tous les... ou toutes les sortes de mouvements de ce type-là qui existent. Et disons, moi je pense que les femmes de Greenham, c'est très très important ce qu'elles ont fait. L'important, justement, le fait qu'elles se soient... qu'elles aient été si nombreuses, qu'elles aient réussi à être si dynamiques, à imposer leur mode d'action et comme ça, ça a changé, je pense, pour beaucoup de monde, en tout cas l'image de ce que pourrait être un mouvement politique.
Je le crois aussi, parce que comme femme, nous avons des problèmes comme ça. Et comme nous sommes dans une groupe mixte, c'est très normal de n'écouter pas quand une femme parle. Notre voix n'est pas si forte et on n'écoute pas. Et ça s'est changé depuis l'année passée. Et la deuxième chose est, quand on écoute, on peut écouter maintenant, mais c'est pas du tout important que les femmes disent. Nous pouvons parler maintenant sans être interrompus toujours. Mais ça ne fait rien.
Ça ne compte pas.
Non, non. Non.
Encore à Genève, en 1984.
Je le crois.
Ah, oui.
Oui, oui, je le crois. Alors, oui, maintenant encore, c'est encore comme ça. Alors, peut-être on peut dire comme ça. Quand nous parlons comme femmes. Maintenant, nous pouvons parler sans être interrompus. Mais ce n'est pas sûr que les hommes écoutent quand nous disons quelque chose. Ils sont tranquilles, mais si on l'écoute ou non, nous ne savons pas. Et après, il y a des hommes qui nous soutiennent, qui soutiennent une idée. Quand cette idée est d'un homme, c'est bon, et quand c'est une idée d'une femme, c'est bon. C'est seulement l'idée qui est importante dans ce moment. Et je crois qu'on peut travailler très bien ensemble avec ces hommes. Mais j'ai aussi le sentiment qu'il y a des hommes qui écoutent, mais qui ont des difficultés de soutenir une idée quand c'est une idée d'une femme. Parce que être non coopératif avec les femmes est une habitude très normale pour des hommes. Alors il y a les deux types des hommes. Les hommes qui soutiennent ou qui soutiennent une idée, et les autres qui font des discriminations très très subtiles, si c'est une idée d'un homme ou si c'est une idée d'une femme.
Il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Tu sens pas le brûler?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique
ouais.
suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah.
Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais alors...
la la. La la la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Qu'est-ce que tu voulais? La 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 la.
Moi, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah,
c'est
incendie.
Normal.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais. La 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 la. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu?
Écoute, J'essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la.
Mais alors, on va tomber.
La la la. Mais
oui. Du quatrième étage.
C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La.
D'accord.
La 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 la.
La 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 la. La 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 la.
Pardon, mais je pense à un truc.
Ouais.
On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatiguante.
Pardon.
Non. On est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc,
ouais.
Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tient. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends?
Et qui ont difficulté de soutenir cette idée des femmes?
Depuis presque 2 semaines, le camp pour la paix, donc installé dans le hall de l'Uni 2, bien au chaud, Dieu merci, je suis bien contente pour eux, parce que quand je vois la neige qui tombe, je suis bien contente de savoir qu'ils sont à l'abri. J'aimerais que tu nous expliques d'abord pourquoi vous avez eu l'idée de vous installer là, et puis comment ça se passe, la vie quotidienne, comme ça, dans un hall d'université.
Oui, c'est une drôle situation d'avoir un camp pour la paix dans l'université de Genève. Et, oui, ça passera comme ça. Et nous avons été au campagne Rigaud pour 3 mois et nous avons demandé l'autorisation de rester au campagne Rigaud. Et nous n'avons pas eu à répondre. Et après, je crois maintenant tout le monde connaît cette histoire. Il y avait la police et on nous a évacués. Et nous sommes été ici à Genève. Et nous avons discuté comment peut-on retourner au campagne Rigaud parce que nous voulions être très très près des négociations. C'est très important pour nous. Alors il faut demander le recteur. C'est pourquoi nous avons pensé à aller à l'université. Et nous avons discuté avec les groupes des étudiants et des autres groupes universitaires. Pour discuter avec le recteur. Et les gens de l'université ont été très concernés que le recteur a fait venir la police à l'université parce que la campagne Rigaud est un terrain de l'université et par évacuer le camp pour la paix, ça veut dire aussi que la police est allée entre l'université, le terrain de l'université. Alors nous avons discuté et nous avons décidé qu'il nous faut avoir un terrain pour le camp et nous sommes allés à l'université et nous avons installé le camp là-dedans. Et maintenant il y a beaucoup de discussions de ce thème de la paix, les missiles et aussi de la responsabilité des représentants des sciences naturelles, sociales ou quelque chose comme ça, mais de la responsabilité de l'université pour la paix. At least.
Au moins,
nous essayons de discuter ça à l'université.
Est-ce qu'il y a une bonne réponse? Est-ce que vous avez été plutôt bien accueillis, donc pas par le recteur, évidemment, mais par les professeurs, les étudiants, tout ça?
Je le crois et je veux dire merci à tout le monde qui a nous soutenu. Alors, nous vivons maintenant dans la grande halle de l'université Et nous avons là des tracts et des livres, et les gens viennent pour voir les livres, pour parler avec nous. Et il y a des gens très différents qui viennent chez nous, et il y a des thèmes très très différents, parce que ce thème, la paix, est très très complexe. La paix, ça veut dire la situation stratégique et les négociations, ou la situation entre la menace nucléaire, la responsabilité peut-être des écoles et la situation comme on sait maintenant, et ou la situation en Suisse, la situation en Europe, la situation au tiers monde. C'est très très complexe, ce thème, la paix. Et il y a des gens très différents qui viennent chez nous et commencent à discuter avec nous. Alors, nous discutons toute la journée des thèmes très très différents. Et nous avons aperçu qu'il y a des gens qui s'intéressent pour ces thèmes. Et nous avons proposé de faire des groupes de travail maintenant sur les thèmes différents. Nous avons fait un catalogue avec 16 thèmes différents. Et nous cherchons maintenant, nous essayons de coordonner les gens qui veulent discuter un thème de ça. C'est quelque chose que nous faisons maintenant dans l'université. Et j'espère que c'est possible de faire ça, groupe de travail sur des thèmes différents.